du Canada, au sein duquel il livre un important témoignage sur l'évolution du droit autochtone au Canada. Et donc, c'est sur ce livre que portera l'émission de ce soir. Donc, bonsoir, M. Morin. Merci d'être avec nous ce soir.
Bonjour, Myriam.
Et donc, à l'animation, vous êtes avec Myriam Lévesque. Et donc, pour commencer, en fait, pour introduire un peu le sujet, je me demandais, en fait, qu'est-ce qui vous a poussé, en ayant été dans le droit autochtone, justement, qu'est-ce qui vous a poussé à mettre par écrit votre expérience?
D'abord, je dois dire que ça a quand même pris 10 ans de gestation, de réflexion, puis aussi d'encouragement d'historiens qui me disaient « René, tu devrais écrire ». Ce que j'ai fait, finalement, en 2016-2017, avec publication en 2017, le plus difficile, c'était moins de déterminer si je devais écrire ou pas, mais plutôt de savoir quelle formule, quelle approche je voulais avoir. Alors, au lieu d'en faire un livre de type didactique, de type universitaire, j'ai plutôt choisi une approche personnelle, basé sur mon expérience, parce que j'ai été plus d'une vingtaine de fois à la Cour suprême dans les dossiers autochtones. C'était l'effervescence des questions autochtones dans les années 80, 90 et même 2000. Et de rendre ça suffisamment intéressant pour sensibiliser le lecteur et peut-être l'aider à mettre de côté beaucoup de préjugés qui malheureusement subsistent encore face à la question autochtone.
Oui, c'est très intéressant. Puis justement, votre ouvrage est très bien vulgarisé également pour atteindre beaucoup de gens aussi. Et donc, on va prendre une courte pause musicale avant de poursuivre et creuser un peu plus sur le sujet. Et donc, écoutons un morceau du groupe Innu Kashtin, un groupe composé de Claude Mackenzie et Florent Volant, qui a été fondé en 84. Et on écoute la pièce « Ewasiwan », en fait un grand succès du groupe qui date de 1989 et qui signifie « Mon enfance » en français. Donc, le groupe Kashtin, bonne écoute.
Chenya
Vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire pour une émission sur la construction du droit autochtone avec René Morin, qui a lui-même été, comme on le mentionnait plus tôt, avocat pour le procureur général du Québec dans plusieurs cas de la Cour suprême. Donc, en fait, votre ouvrage est divisé en trois grandes parties et une première, en fait, trace l'histoire des relations entre la Couronne et les Autochtones. Et donc, en fait, à quand remontent, disons-le, essentiellement les premières relations entre les Autochtones et les Européens en ce qui a trait notamment au droit?
Juste un petit point. J'ai pas abordé tous les aspects sur les questions autochtones. J'ai été chercher les éléments qui, d'après moi, sont importants et qui ont été utiles pour les juristes ou pour les juges, en fait, dans la construction du droit autochtone. En fait, quand est-ce que ça remonte, les premières relations, bien, ça n'a pas pris de temps. Quand les Européens sont arrivés, on pense à Jacques Cartier, il était dans Baie-de-Gaspé, il a déjà rencontré des Autochtones. Alors, dès ce moment-là, et ça a été le cas par la suite pour les explorateurs, pour les marchands, pour ceux qui pêchaient le poisson le long de la côte nord, justement, il y a donc eu, à ce moment-là, des contacts avec les Autochtones. Et c'est alors posé la question, bien, quel est leur statut? Quelle est leur place? Est-ce que, à la limite, c'était des gens qui, même si on les appelait des nations, qui étaient des sujets de droit international, qui avaient de la pleine souveraineté, à l'instar des pays européens? Alors, il y a eu des débats en Europe là-dessus. Et les positions ont divergé selon les régimes. Les Anglais avaient une façon de penser qui était différente de la façon de penser des Français. Alors, et je dirais que le droit autochtone, dans le fond, c'est l'histoire des relations entre la couronne, qu'elle soit française ou anglaise, et les Autochtones depuis les premiers contacts jusqu'à aujourd'hui, et même qui va se continuer tant que le Canada va exister.
Puis, si on pense au régime anglais, la proclamation royale, pardon, de 1763 est un document assez important dans le droit, justement. Quel principe ce document-là
peut apporter au droit? Il faut peut-être remonter un petit peu dans le temps. La proclamation, pour certains juges de la Cour suprême, c'est l'équivalent de la Grande Charte, la Magna Carta, là, que les Anglais soulignent, célèbrent, qui date de 1215. C'était un événement majeur dans l'histoire britannique et qui est à l'origine du No Taxation Without Representation et qui a conduit un long cheminement vers le parlementarisme britannique. Alors, la proclamation royale fait suite à la défaite de la Nouvelle-France, en fait, à la capitulation de la Nouvelle-France. Les Indiens, pour l'essentiel, étaient les alliés des Français, étaient des gens qui, à la suite de la Grande Paix de Montréal de 1701, qui a permis tant aux Indiens ennemis des Français que des Indiens alliés des Français de s'entendre, de sorte que pendant la guerre de sept ans opposant principalement la France à l'Angleterre en 1756 et 1763, les Anglais perdaient tout le temps dans les premières années, tout le temps. Malgré la petitesse de la population française ici, les Anglais perdaient. Et ils se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils brisent l'alliance entre les Français et les Indiens. Mais pour briser l'alliance, il fallait des contreparties, toutes sortes d'engagements qui se sont cristallisés dans la proclamation royale, comme par exemple, écoutez, on va conquérir, battre les Français, mais ne vous énervez pas, vous allez pouvoir continuer à occuper vos terres et exercer votre mode de vie comme avant. Et si on a besoin de vos terres, ou si encore vous voulez vous en départir, il va y avoir un processus, et le tout est inscrit dans la proclamation royale.
Puis, justement, parlant de terres, de droits territoriaux, justement, si on peut dire, bon, au 19e siècle, il y a beaucoup de transformations, notamment la création des réserves. Oui. Dans quel contexte, en fait, elles sont créées? Bon. Puis, bon, toute la question des traités et tout.
Alors, pour reprendre le fil avec la proclamation royale, il s'est créé, en vertu de ce document-là, qui était en fait le premier document constitutionnel sous le régime anglais du Canada. Il y a eu la colonie de Québec qui a été créée le long du Saint-Laurent, où se trouvait l'essentiel de la population française. Mais à l'extérieur, il y avait un territoire indien, le Indian Territory. Les Français ou les Anglais ne pouvaient pas aller sur ces terres-là à moins d'avoir des papiers, des permis, etc. tout ça a assez bien fonctionné dans les années qui ont suivi la proclamation royale. Le rapport de force jouant définitivement encore au profit des Indiens, qui étaient plus nombreux que les Anglais, qui n'étaient pas encore arrivés. Mais là, il y a eu les loyalistes qui sont arrivés dans les années 1780, à la suite de l'indépendance américaine. Il y a eu l'arrivée d'immigrants comme tels. Il y a eu aussi une sorte de rareté des ressources qui s'est installée dans les années 1800-1820. Mais peut-être que le facteur le plus essentiel, c'était la question forestière. Les Anglais, qui avaient besoin de bateaux, tant pour leur marine que pour le commerce, ne pouvaient plus s'approvisionner en bois sous la France révolutionnaire de Napoléon. Napoléon avait créé un blocus. Les Anglais, avec qui il était en guerre, ne pouvaient pas s'approvisionner en bois. Alors donc, l'Angleterre s'est retournée vers le Canada, dans ses vastes forêts, que ce soit dans les provinces maritimes ou au Québec. Alors, ce qui dit coupe forestière, industrie forestière, dit bûcheron, mais aussi colon. Alors, les Indiens qui fréquentaient ou occupaient des territoires se sentaient de plus en plus vulnérables. Ils ont demandé des terres par des pétitions dans ce qu'on appelait le Bas-Canada, le Québec d'aujourd'hui, à l'abri de la colonisation et de développement. Les Anglais ont fini, ou la colonie a fini par leur en donner, leur en concéder, en 1851. Et ce sont ces parcelles de terre-là ont été protégées par la loi des Indiens, loi qui a été adoptée en 1876 et qui, finalement, régit le système de réserve. Alors, dire que les Indiens ont été forcés d'aller sur ces terres-là, il y a eu beaucoup de choses malheureuses qui sont passées par la suite. Mais si on situe ça dans son contexte, là, les Autochtones eux-mêmes, d'une certaine façon, via des pétitions, demandaient aux autorités, on se sent de plus en plus vulnérable, pouvez-vous nous mettre des terres à l'abri de la colonisation? Et c'est ce qui s'est fait dans le Bas-Canada. Contrairement au Haut-Canada, l'Ontario d'aujourd'hui, parce que le tout se faisait par des traités. Les Indiens cédaient leurs droits à l'intérieur du traité. En contrepartie, ils avaient des terres à l'abri de la colonisation et développement qui, elles aussi, vont devenir des terres de réserve au sein de la loi des Indiens.
Puis il y a également les traités numérotés qui sont très importants. En fait, partout au Canada, au Québec, en fait, il n'y aura pas de traité numéroté avant 1975. On peut dire qu'on peut l'inclure dans les traités numérotés, justement. En fait, qui est un document extrêmement important pour le droit autochtone au Québec. Dans quel contexte va être signée cette convention de la baie James et du Nord québécois en 1975?
Bon, alors écoutez, pour en revenir au traité numéroté, numéroté après la Confédération de 1 à 11, jusqu'en 1922-1923. Pourquoi? Parce qu'on voulait que les Indiens cèdent leurs droits en échange des avantages contenus dans les traités. Au Québec, il n'y en avait pas. Ça ne se faisait pas sous le régime français, les traités. Les Français disaient, écoutez, un Indien qui est devenu catholique, il est devenu un Français. Il est réputé naturel français. Par contre, on va leur mettre des terres pour leur évangélisation et sédentarisation. Et ces terres-là ont été données à des religieux, que ce soit les Sulpiciens à Oka, que ce soit aux Jésuites, à Montréal et même à Québec, de sorte qu'il y avait une approche complètement différente. Le Québec, pour des questions historiques et avec le poids de l'histoire, de la doctrine, ne jugeait pas opportun de conclure des traités, le gouvernement fédéral non plus ne concluait pas de traités au Québec. Arrive la Convention de la baie James. Ça fait suite, ça, aux travaux que le premier ministre Robert Bourassa, en 1970, avait promis des constructions de barrages hydroélectriques dans le nord du Québec, sur la rivière La Grande. Or, qu'est-ce qui vivait là? Il y avait les Cris et les Inuits. Plus directement les Cris, et construire un barrage, c'est provoquer des inondations, c'est amener beaucoup de monde sur le terrain. Et, contre toute attente aux yeux des autorités, les Indiens ont décidé de se battre. Ils ont intenté un recours, qu'on appelle une injonction interlocutoire, pour empêcher la construction de ces barrages-là. Et, contre toute attente, encore une fois, la Cour supérieure, dans un premier temps, leur a donné raison. Alors, ça a déstabilisé le gouvernement. Pour faire une histoire vite, la pression était telle, à un moment donné, face à des procédures judiciaires qui pouvaient s'enliser pendant plusieurs années, qu'il était préférable pour les autorités gouvernementales de négocier. Et ça a donné lieu à une convention. La convention d'Abbey James, qu'on peut appeler le premier traité moderne, qui a, avec les, si vous le prenez dans son édition des publications du Québec, a presque 500 pages. C'est pas mal plus de pages et de droits que les traités anciens historiques qui n'avaient que quelques pages et qui étaient conclus en une nuit ou deux sur le terrain par les négociateurs gouvernementaux dans les années 1870-80 jusqu'en 1923.
Puis, si on se déplace un peu en 82, lors du rapatriement de la Constitution, en fait, il va avoir un grand impact sur le droit autochtone, des droits ancestraux notamment, qui vont être reconnus. Comment ça... Quel impact ça a justement sur le droit autochtone, notamment peut-être au Québec aussi?
Bien, ça va avoir un impact certain parce que les droits autochtones, quand bien même ils avaient commencé à être reconnus dans la jurisprudence, peut-être ressuscités, plutôt que reconnus, là, on a l'impression qu'on a vécu comme la Belle au bois dormant pendant à peu près 100 ans, comme s'il n'y avait plus rien qui existait, puis whoop, les tribunaux ont redonné vie ou ont ressuscité ces droits-là. Mais ils n'avaient pas ce que j'appelle une protection constitutionnelle. Alors, les droits ancestraux et les droits issus de traités, il ne faut pas oublier ces droits-là non plus, ont maintenant, depuis le 17 avril 1982, une protection constitutionnelle. On va peut-être y revenir plus tard, mais une protection constitutionnelle, ce n'est pas juste un mot dans une discussion de salon. Ça peut aussi entraîner la non-application des lois, l'inopérabilité des lois, si on n'en tient pas compte. Alors, ça leur donne une force qu'ils n'avaient pas auparavant.
Puis, au sein des discussions pour la Constitution, justement, quelle va être la principale préoccupation peut-être des associations autochtones?
Les associations autochtones étaient peut-être déjà bien heureuses de cette protection-là, mais dans le cadre d'un processus constitutionnel qui a aussi été mis de l'avant en même temps que la protection constitutionnelle des droits ancestraux et des droits issus traités. Hein, ça, c'était l'article 35. L'article 37 prévoyait des conférences. Alors, la préoccupation majeure des associations autochtones, c'était de s'assurer ou de se faire reconnaître un droit inhérent à l'autonomie gouvernementale. En fait, un droit qui existe déjà par lui-même. Cela effrayait... Faut le dire, là, les autorités gouvernementales, tant fédérales que provinciales, parce qu'ils se demandaient, bien, est-ce à dire que ce droit inhérent qu'ils ont de s'auto-gouverner pourrait justement les mettre à l'abri des lois fédérales et provinciales, indépendamment des droits ancestraux, là. Le fait qu'ils puissent s'auto-gouverner, est-ce que ça n'en fera pas des États dans l'État? Et pour les gouvernements, c'était... impensable ou inacceptable. Alors, le débat a porté là-dessus dans les années 80. Là, il y a eu 4 conférences de premiers ministres précédées de je ne sais combien de conférences de ministres, de hauts fonctionnaires, et l'essentiel a porté là-dessus. Alors, c'était donc la préoccupation, je dirais, principale des Autochtones à l'époque.
Puis avant d'aller en pause, on va commencer, en fait, à s'intéresser aux 12 jugements, justement, de la Cour. En fait, vous avez vraiment choisi 12 jugements qui, selon vous, avaient influencé la construction du droit autochtone. Et donc, on va commencer, en fait, par le premier, puis on va aller un peu jugement par jugement au long de l'émission pour comprendre un peu ce parcours-là. Le premier jugement que vous avez choisi, en fait, étonnamment, date de 1888, c'est l'affaire St. Catharines Milling and Lumber Company. Donc, quel est ce jugement-là et comment il a influencé...
On parle de 12 jugements de la Cour suprême, mais ça commence bien. Le premier, il vient du Conseil privé, qui était le plus haut tribunal du pays jusqu'en 1949. Les faits sont simples. Il y a une compagnie qui s'appelle St. Catharines Milling qui coupe du bois. Elle a besoin d'un permis. Qui va donner le permis? Est-ce que c'est le fédéral? De la nouvelle province de l'Ontario, là, on est en 1885, 86, 87, là, donc à peu près 15-20 ans après l'avènement de la Confédération, où est-ce que c'est le fédéral? Le fédéral avait une position assez bizarre. Le fédéral a dit, écoutez, la compagnie va couper du bois sur des terres que les Indiens ont cédées En vertu d'un traité, on parlait de traité numéroté, c'était le traité numéro 3 de 1873. Alors, pour le fédéral, pour Johnny McDonald, premier ministre du Canada, père de la Confédération, bien, écoutez, les terres que les Indiens cèdent, là, dans le fond, ça devient ma pleine propriété à moi, ma propriété fédérale. Donc, c'est moi qui vais émettre le permis. Et évidemment, pour pouvoir soutenir une position comme ça, il fallait presque que le fédéral avoue que, dans le fond, les Indiens avaient la pleine propriété des terres qu'ils ont cédées au fédéral, qui, lui, a maintenant la pleine propriété des terres. Évidemment, ça n'enthousiasmait pas beaucoup le premier ministre de l'Ontario, qui s'appelait Oliver Mowat. En fait, ça ne l'enthousiasmait pas du tout, parce qu'il restait encore beaucoup de territoire de l'Ontario de 1867 qui n'avait pas encore fait l'objet de traités ou qui en avait fait après 1867. Alors, il s'était dit, bien là, ça veut dire que toutes ces terres-là sont absolument étrangers à mon contrôle parce que ça va devenir des terres fédérales. Alors, lui avait tout avantage à minimiser l'intérêt autochtone, la portée des droits des Autochtones. Alors, au lieu d'en faire des droits de propriété, il a dit, écoutez, c'est un intérêt sur les terres, autre que celui de la province, qui, une fois cédé par les Indiens, bien, il disparaît. Il n'a plus. Alors, on ne peut pas parler de transfert de propriété des Indiens à un gouvernement. Les Indiens cèdent, et that's it, that's all, c'est fini. Et c'est la position d'Ontario qui l'a emporté devant toutes les cours, y compris le Conseil privé. C'est important, cette décision-là, même si ça date de la fin du 19e siècle, parce que, dans le fond, c'est la base. C'est la base de la nature du droit des Autochtones qui va mieux se structurer par la suite à travers les jugements de la Cour suprême, mais ça reste la base.
Et donc, avant de poursuivre, en fait, on va y aller avec une deuxième pièce musicale. On va entendre la chanson Bush Lady de Alanis Obomsawin, que certains connaissent peut-être, qui a été très active, très engagée pour les Autochtones. Et donc, écoutons la musique Bush Lady d'Alanis Obomsawin.
Hey ho ho, hey ho ho, hey ho hey ho, hey ho 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 ho. Hey, Bush Lady, come to the city. Hey ho ho, 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 ho ho ho, ho. Love?
rich lady. You got a big belly. Go home. Go back to your people. Bush lady, you go home now. You hear? Hey ho, hi ho ho, hi ho ho, hi ho ho. Did you hear that bush lady? Why, she got a blonde baby, you know. Hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho.
Écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Tannée de toujours entendre des gens fâchés à la radio? Essayez Chérie J'arrive, nouvelle formule améliorée. Plus de chroniqueurs, plus de nouveautés musicales, d'artistes en entrevue, des arts visuels, d'improvisation, du théâtre, de l'annonce, du cinéma et même du monde qui passe à TV. Chérie J'arrive est disponible dès maintenant du lundi au vendredi de 16h à 17h30 pour 5 paiements faciles de... gratuit. Chérie J'arrive, l'émission des gens toujours contents et pertinents. Je suis Émilie Rioux et j'approuve ce message.
Salut, ici Alex Baillargeon et je vous retrouve tous les mercredis à Chiz pour le deuxième service du Réchaud. Le Réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon Réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Les mercredis, dès 13h, synthonisez le deuxième service sur les ondes de Chiz 94.3.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est la main! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3. Fred Fortin est de retour avec un nouvel album intitulé Microdose, incluant l'extrait Led Zeppelin.
Oh Mathieu, on va te voir un film. Ça va te faire changer d'air, de faire un tour de machine, fumer une douille dans le parquet.
L'album est offert dès maintenant en magasin et en ligne.
J'ai fait des kilomètres sur les traces de Led Zeppelin en s'imprimer Valdor.
Voyez les dates de tournée au fredfortin.ca.
Vous êtes de retour, sur les ondes de Chiz 94.3 pour une émission de 3600 secondes d'histoire avec René Morin, qui est spécialiste en droit autochtone. Et on s'intéresse justement à la construction du droit autochtone par la Cour suprême du Canada à partir surtout des années 70. Donc, avant la pause, on a abordé l'historique un peu des relations entre la Couronne et les Autochtones. On a aussi commencé justement avec les 12 jugements que vous aviez sélectionnés qui, selon vous, avaient influencé la construction de ce droit-là. On a parlé d'une première affaire en 1888 et on avance un peu dans le temps maintenant avec l'affaire des Esquimaux de 1939.
Oui, pour faire une histoire courte, quand vous lisez la Constitution de 1867, la compétence sur les Indiens n'était réservée aux Indiens. Ça, c'est le fédéral, c'est pas le provincial. Question? Est-ce que le mot « indien » comprend les Esquimaux, qu'on appelle aujourd'hui les Inuits? Le Québec avait dit « oui, 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 les Esquimaux, c'est pas nous autres, c'est le fédéral ». Le fédéral a dit « ben non, le mot « indien », il parle par lui-même, ça ne peut pas viser les Esquimaux ». Le Québec a gagné et à la Cour suprême, on a dit que le mot « Esquimaux » était compris dans le mot « indien ». Et j'ajoute qu'en 2013-2014, dans ces années-là, la Cour suprême a également dit que les Métis étaient dans le mot indien. Alors, ça commence à faire pas mal plus de monde que ce que les pères de la Confédération sans doute envisageaient en 1867. Alors, c'est ce que je peux vous dire sur ça.
Puis qu'est-ce que ça expose, en fait, l'affaire des Esquimaux? C'est quoi le cœur de cette affaire-là?
Bien, le Québec ne voulait pas dédommager... c'est que dans le contexte d'extension de territoire, notamment en 1912, le Québec a obtenu la terre de Rupert, le nord, mais il y avait à s'occuper des Autochtones, à les compenser. Or, ceux qui vivaient là, c'était les Indiens et les Esquimaux. Et le Québec disait, bien, c'est pas à moi, les Esquimaux, c'est fédéral, ça. C'est dans la Constitution sous le mot « indien ». Et finalement, le Québec a gagné son point. Ça l'a conforté dans l'idée qu'il n'y avait pas à s'occuper des Esquimaux. Sauf que une trentaine d'années plus tard, via la Convention d'Abbé James, les Esquimaux, ils sont revenus à la charge dans le contexte de ce qu'on disait tantôt, avec l'injonction interlocutoire pour bloquer les projets de Bourassa, les barrages hydroélectriques. Alors, dans le fond, les Esquimaux, ils sont comme une espèce d'élément là, qui s'ajoute dans le dossier québécois qui va finalement conduire à la Convention d'Abbé James.
Puis, si on s'intéresse à l'affaire Calder de 1973, bon. Comment, en fait, elle marque un tournant?
Bien, ça marque un tournant. C'est absolument majeur. Même si c'est dans l'Ouest, c'est assez curieux, mais les causes de l'Ouest, là, c'est comme le jet stream. Ils partent de l'Ouest, ils traversent le Canada, puis la portée de ce jugement-là peut finalement finir par s'appliquer ici. Dans l'affaire Calder, il y avait un groupe d'Indiens, les Nijgars, qui avait intenté un recours pour faire déclarer une partie du territoire en Colombie-Britannique comme leur appartenant non éteint par les lois. La position de la Colombie-Britannique était de dire, écoutez, pour avoir un droit, il faut que vous vous appuyiez sur un document. Et le seul document qu'il y a, c'est la Proclamation royale. Alors, la Proclamation royale de 1763 ne peut pas s'appliquer là. Personne ne savait que ça existait à Colombie-Britannique. La véranderie n'avait pas été plus loin que les Rocheuses. On n'était donc pas au-delà des Rocheuses à ce moment-là. Alors, donc, si la Proclamation royale ne s'applique pas, il ne peut pas avoir de droit. Alors, ce que la Cour a dit, trois juges, mais finalement, c'est ça qui va dominer, de la Cour suprême, ont dit, écoutez, pas besoin d'avoir de proclamation pour savoir s'il y a des droits. Il suffit de constater, de voir si les Autochtones étaient en société organisée sur un territoire, au moment de l'arrivée des Européens, un territoire qu'ils occupaient depuis des lustres. Et c'était le cas dans l'affaire des Nijigas. Alors, ça a été une révélation, parce que si on n'a pas besoin de documents pour attester de l'existence de droits autochtones, ça peut s'appliquer partout ailleurs, notamment au Québec ou dans les provinces maritimes. Et ça a été le début de toute une révolution de processus visant à négocier des accords dits de revendication territoriale avec les Autochtones qui vont devenir des traités modernes. Il y en a quand même plusieurs qui ont été signés.
Puis, vous avez représenté le procureur général du Québec dans l'affaire Sioui, également, oui. De 1990. Donc, qu'est-ce que cette affaire-là apporte, notamment au niveau du droit et de l'histoire, justement?
Bon, bien, Sioui, c'est l'affaire des Hurons, quelques Hurons dans le parc de la Jacques-Cartier, un parc, là, pas loin de Québec, avait fait des... coupé des branches, fait des feux, et campé dans des endroits qui n'étaient pas prévus à cet effet dans le règlement régissant le parc. En soi, c'était anodin, mais ils ont invoqué un document que personne n'avait vu, qui remontait au 5 septembre 1760, qui avait été signé par Murray ou son adjoint, qui permettait aux Hurons, alliés des Français, qui étaient dans la région de Montréal, de retourner chez eux à Lorette sans être molestés le long de la route. Mais le document ajoutait, et ils pourront, ils sont reçus de la même manière que les Canadiens, ils pourront exercer leur coutume, ils vont avoir la liberté de religion et ils vont également avoir la liberté de commerce. Alors, toute la cause portait sur la qualification de ce petit document. Est-ce que c'est un traité ou un simple laisser-passer leur permettant de retourner chez eux, ou encore un acte de capitulation, parce que là, on était à 3-4 jours de la défaite de la Nouvelle-France à Montréal. Alors, et la Cour suprême en a fait un traité. Elle l'a distingué des autres petits documents que les citoyens, entre Montréal et Québec, recevaient des Britanniques en disant « Mettez bas les armes, puis vous ne serez pas dérangés, on ne brûlera pas vos maisons, puis vous allez continuer à exercer vos activités comme avant. » La Cour a dit « Ils ne sont pas comme les autres. Ce n'est pas comme la milice, ce n'est pas comme les habitants, parce qu'ils ont un statut spécial, les Autochtones. » Alors, elle a élevé le document pour en faire un traité qui a des significations juridiques en droit. Effectivement, on ne peut pas le traiter à une protection constitutionnelle. Les droits issus de traités, alors c'est une dynamique complètement différente.
Puis comment ça va influencer la prise en compte de d'autres traités, justement, ou de prendre des documents comme des traités dans le futur, justement, des relations?
D'abord, je dois vous dire qu'aux yeux des autorités gouvernementales, ça a été une surprise. Alors, tout le monde s'est penché sur l'histoire et sur le passé pour savoir, bien, y en a-tu d'autres, des petits papiers comme ça? Et il y en a eu un qui est ressorti dans l'affaire Côté, même si la Cour suprême ne l'a pas décidé, c'est l'affaire Swigachi. L'affaire Swigachi, en fait, c'est pas l'affaire Swigachi, c'est le traité dit de Swigachi, qui n'est même pas un petit papier, là. C'est un des engagements ou des éléments confinés dans le journal d'un dénommé Johnson, William Johnson, qui était un personnage important dans la gestion des questions autochtones. Et ça revenait à dire, écoutez, les Anglais arrivent, si on est à la veille de la capitulation de la Nouvelle-France, tenez-vous tranquille, puis on va vous assurer que vous allez continuer à exercer vos activités et sur vos terres traditionnelles. Alors, c'est écrit dans le journal de Johnson, mais pas dans un document comme si oui ou dans d'autres traités. Alors, ça montre que ces engagements-là, qui avaient été faits en 1760, que finalement avait été plus ou moins par la suite ignoré ou oublié, se trouve maintenant ressuscité, reconstruit par la Cour suprême dans l'affaire Sioui, d'une certaine façon, et l'affaire Côté. Et ça s'inscrit là, dans la nouvelle mouvance du droit autochtone depuis l'arrêt Calder, là, que je peux appeler l'an 1 du droit des Autochtones moderne de 1973.
Puis, si on s'intéresse à l'affaire Sparrow en 90, notamment qui a apporté beaucoup de nouveautés dans la question des droits ancestraux.
Bien, c'est que Sparrow, c'est la première décision de principe sur le degré de protection des droits ancestraux ou des droits issus traités. On avait eu la Constitution de 1982 qui avait donné un caractère constitutionnel à ces droits-là, mais on ne savait pas, en pratique, c'était quoi la force de ces droits-là par rapport à l'application des lois. Il y avait comme trois positions sur la table. Une première position très, très radicale, c'était de dire ces lois-là sont complètement à l'abri des lois parce qu'ils ne sont pas visés par la charte. On peut toujours limiter des droits de charte dans une société juste, juste et démocratique. Puis c'était pas dans la charte. Donc, pour les tenants de cette position-là, ces lois-là avaient une protection carrément. À l'abri des lois fédérales et évidemment provinciales. L'autre position, à l'autre extrême, c'était de dire, ben non, là, on ne fait que reconnaître que ces droits-là existent, mais c'est business as usual. Ces droits-là peuvent toujours être affectés ou éteints par des lois. comme avant 1982. Mais il y avait une position médiane qui était le, non pas le oui ou le non, là, mais qui était, en fait, c'était oui et non. C'était, écoutez, ces droits-là ont une protection constitutionnelle. Il faut que les gouvernements en tiennent compte lorsqu'ils adoptent des lois susceptibles de les affecter, ces droits-là. Alors, il faut donc qu'on leur laisse une petite place, qu'on prévoit, on parle aujourd'hui d'accommodement raisonnable, qu'on justifie le pourquoi on porte atteinte à des droits. Alors, c'est cette approche-là qui a été retenue et ce qui a généré maintenant des analyses beaucoup plus fines de la part des autorités lorsqu'ils veulent affecter les droits autochtones.
Puis les droits ancestraux vont notamment être définis davantage dans l'affaire Vanderpeet de 96.
Oui. En fait, si on revient dans le temps, vous savez, on a dit, la Cour suprême avait dit que des droits ancestraux en 1973, ça pouvait exister dans l'affaire Calder, du fait que les Autochtones sont en société organisée sur des territoires depuis des lustres. Ce que la Cour suprême est allée dire dans Vanderpeet, bien, il faut... Les droits ancestraux, c'est des éléments d'une pratique, coutume ou tradition qui fait partie intégrante de la culture distinctive des Autochtones concernés au moment du contact avec les Européens. Alors, c'est des beaux mots, ça, mais pour leur donner du sens, il faut des preuves, parce que ces droits-là ne s'infèrent pas, et ça prend des preuves historiques, anthropologiques, peut-être même, et même beaucoup, des témoignages des communautés autochtones via la tradition orale. Alors, c'est donc un arrêt important parce que ça nous a donné les éléments essentiels pour déterminer si oui ou non on avait des droits ancestraux.
Puis, il y a toute la question des droits ancestraux, titres aborigènes, droits territoriaux. Oui. Comment tout ça se distingue?
Le titre aborigène, c'est une sous-catégorie, si vous voulez, du droit ancestral. Ça a été décidé un an après dans l'affaire Delgamuukw. Ce n'est pas l'activité qui est au cœur du droit, c'est le territoire lui-même. Est-ce que le territoire fait partie intégrante de la culture distinctive de la communauté concernée? On ne se place pas au moment du contact, mais au moment de l'affirmation de la souveraineté de la couronne. Ça, c'est la définition que la Cour suprême nous a donnée. Une fois qu'on a dit ça, en 30 secondes, ce n'est pas évident, là. C'est qu'est-ce qui fait qu'un territoire fait partie intégrante de ta culture distinctive? Est-ce que un simple territoire de chasse et de pêche sur de grands espaces équivaut à conférer un titre? La question se pose, j'en doute pour ma part. Par contre, un lieu sacré, qui est le lieu de rencontre pour des fins religieuses ou rituelles, pourrait être considéré comme conférer un titre. Même chose pour les territoires où il y a une habitation physique des Autochtones, ou encore des territoires qui servent de lieu de rencontre à des fins rituelles, sociales, politique entre familles autochtones. La Cour suprême nous donne une définition, mais sa mise en application n'est pas toujours facile à faire.
Puis, si on reste justement dans toute la question des droits territoriaux, il y a l'affaire Mitchell en 2001 qui apportait encore une fois une redéfinition de ces droits-là.
Bien, Mitchell, c'est pas tellement les droits territoriaux que les droits ancestraux. Il faut dire que Mitchell, ça touche via Akwesasne, l'État de New York, l'Ontario. C'est une réserve indienne aujourd'hui qui occupe une position assez particulière au Canada. Alors, les Indiens prétendaient qu'historiquement, ils faisaient du commerce entre les communautés qui étaient dans la colonie New York du temps et l'Ontario d'aujourd'hui. Alors, de sorte que ça les amenait à traverser la frontière. Comme il n'y avait pas de frontière à l'époque et qu'ils qualifiaient ça de droit ancestral, et que pour eux, c'était un droit ancestral, bien, ils n'avaient pas à s'arrêter aux douanes et à avoir toutes sortes de contrôles. Demain, pour les autorités, c'était assez lourd de conséquences. Et ils ont gagné dans les deux premières instances, mais ils ont perdu à la Cour suprême. Et Mme la juge McLaughlin, avec un nombre de juges, avait considéré que non, les relations économiques ne se faisaient pas dans un axe nord-sud, mais dans un axe est-ouest, ce qui confinait toute la question des échanges pouvant donner lieu à un droit ancestral dans la colonie New York. Alors, ça lui permettait de contourner le problème. Par contre, le juge Béné, avec un autre juge, a dit, « Écoutez, quand bien même les Autochtones ont une forme de souveraineté, ils l'ont perdue avec la création du Canada et des frontières. C'est devenu une sorte de souveraineté domestique, interne. Mais ça ne les exempte pas de devoir être contrôlés aux frontières s'ils transportent des biens.
Mm-hmm. »
Le Québec est intervenu là-dedans parce que... Il voyait les conséquences incroyables si jamais la Cour suprême avait reconnu qu'un traité, pas un traité, qu'un droit ancestral de traverser la frontière avec un minimum de contrôle ou sans contrôle avait survécu à la Cour suprême.
Puis on parlait tantôt, notamment dans l'affaire des Esquimaux, qu'il y avait une définition de bon, qui était inclus dans la loi sur les Indiens, notamment les personnes métisses. Il y a l'affaire Paulet, en fait, en 2003, qui a été très importante. Justement, comment notamment ont été établis les principes pour distinguer une personne métisse?
Bien, c'est que les métisses, pour beaucoup, à tout le moins les gouvernements, c'était ce que je pourrais qualifier les descendants de Louis Riel. C'est ceux qui vivaient dans l'Ouest. Au Manitoba. Alors, on voyait pas de métis ailleurs. Et la cause qui est à l'origine... parler, c'est une affaire en Ontario, au Sault-Sainte-Marie. Alors, donc, on n'est pas au Manitoba. Et la cause s'est demandée, bien là, ces gens-là prétendent qu'ils font partie d'un peuple métis. Alors, ça a obligé la Cour à regarder les critères. Jusqu'à quel point ces personnes-là pouvaient faire partie d'un peuple métis. Et la Cour a dit, écoutez, il ne suffit pas d'avoir des descendants ou des ascendants qui sont un ancêtre indien, là, dans deux, trois générations. Il ne suffit pas qu'il y ait un regroupement de personnes qui ont des descendants, qui ont des ancêtres indiens. Il faut que ces gens-là, regroupés, évidemment, se sentent distincts des Européens et des Indiens eux-mêmes. Faut qu'ils disent, moi, je ne suis pas comme les autres. Là. Et il faut que cet état-là soit attesté au moment de la mainmise effective de la couronne sur le territoire. Un autre concept. On avait parlé de contact, on a parlé d'affirmation... de souveraineté. Là, on est rendu qu'on parle de la mainmise effective. Encore une fois, c'est quoi ça? Puis tout le débat va porter là-dessus. C'est quand? Peut-être, je le mets comme hypothèse, que dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, on pourrait dire que c'est vers les années 1840, au moment où on a commencé à faire de la colonisation, là, Chicoutimi, Arvida, Jonquière, etc. De sorte que faudrait avoir à ce moment-là la photographie de la situation pour savoir s'il existait une communauté métisse sur le territoire.
Puis le temps file, c'est presque la fin de l'émission, mais en fait, avant de conclure, peut-être une question assez large. La Cour, en fait, c'est quand même adapté justement beaucoup avec les Autochtones. Il y a notamment eu plus de consultations graduellement. Oui. Et il y a aussi des sources. En fait, les sources se sont diversifiées aussi. Vous parliez tantôt des anthropologies, de l'histoire et des sources orales. Donc, comment, en fait, la Cour s'est peut-être adaptée?
La Cour, vous savez que pour un juriste et d'une certaine façon pour les historiens, tout ça, il faut que ça soit dans des écrits. On regarde les écrits, les papiers, on fait la critique des sources. Mais la tradition orale, c'est quelque chose avec laquelle ils ne sont pas à l'aise. Il y a toujours un danger qu'un événement devienne s'enjolive avec le temps et ne correspond peut-être plus à ce que c'était au point de départ. Alors, mais la Cour suprême a quand même dit, écoutez, là, c'était dit dans Delgamo, les Autochtones ne parlaient pas par des écrits puis par des livres, mais par la tradition orale, il faut en tenir compte. Alors, donc, la Cour a dit, oui, c'est admissible, mais encore, comment? Et le débat n'est pas terminé là-dessus, c'est pas nécessairement évident. Jusqu'à quel point on doit donner un crédit absolu à tout ce qui découle de la tradition orale. Peut-être qu'il y a des éléments essentiels, un commun dénominateur, indépendamment de petites choses accessoires dont il faudra tenir compte. Mm. Et c'est des nouvelles avenues de la Cour suprême.
Effectivement. Et puis, en fait, une question peut-être pour terminer l'entrevue. Votre titre le dit, la construction du droit autochtone par la Cour suprême. Comment, en fait, quel rôle a joué la Cour dans cette construction-là?
Moi, je pense qu'elle a joué un rôle essentiel. Peut-être que je prêche pour ma paroisse. Quand je regarde les positions gouvernementales qui étaient toujours en deçà, la plupart du temps, de ce que la Cour suprême elle-même a exprimé, je pense qu'elle a servi, elle a été à l'avant-garde et non pas à la remorque de ce que je pourrais appeler l'espèce de progrès dans le développement du droit autochtone. Et dans son sillage, bien, ça a généré beaucoup d'industries au niveau de l'histoire, de la biologie, de l'anthropologie, parce que les droits ne s'infèrent pas, il faut les établir. Et il y a donc une espèce de connexion entre le droit et l'histoire ou les autres sciences sociales dans l'évolution de ce droit-là qui se continue.
Mais merci beaucoup, M. Morin. C'est déjà tout le temps qu'on avait pour ce soir. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous ce soir.
Je vous remercie beaucoup.
Je vous invite aussi, à nos auditeurs et auditrices, à vous procurer le livre de M. Morin qui a été publié au Septentrion en 2017, « La construction du droit autochtone par la Cour suprême du Canada ». Donc, si vous vraiment voulez en savoir davantage sur tout ce qu'on a abordé très brièvement ce soir. Et pour terminer, on va se quitter en fait sur une dernière chanson. C'est un groupe autochtone qui sont originaires du Yukon, Diet and the Love Soldier. Et la chanson s'intitule We're Still Here. Ils font du néo-folk, c'est très inspirant. Et donc, sur ce, vous étiez avec Myriam à l'animation. Je rappelle que si vous souhaitez réécouter ou télécharger l'émission, elle va être disponible en balado-diffusion dès demain. Et donc, encore une fois, merci de votre écoute et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire. Hey, hey, yeah.
They keep trying to take my flowers and replace them with guns. No one's gonna take my heart. That's a battle I've already won. You can run. What good will that do us? At least we know we tried. At the end of the night, got nowhere to go. Stuck on this ball. We're out of control, but we're still here. We'll raise our drinks tonight to life. Tomorrow we'll try to do what's right. Yeah, we're still here. So many words are flying at us, claiming to be the best. Words don't carry weight when you don't know who to trust. Everyone knows, everyone sees. Truth is but a small part of what you want to believe. At the end of the night, got nowhere to go. Stuck on this ball. We're out of control, but we're still here. We'll raise our drinks tonight to life. Tomorrow we'll try to do what's right. Yeah, we're still here. We got tomorrow. Everything we're not. In the sweetest dreams, you're not alone. So we keep searching for the place that garden grows. At the end of the night, got nowhere to go. Stuck on this ball. We're out of control. We're still here. We'll raise the drinks tonight to life. Tomorrow we'll try to do what's right. Yeah, we're still. Hey, yeah, hey, yeah, hey.
Marins d'eau douce sont de retour cet été avec une formule allégée. Pour tout savoir sur le meilleur du cinéma, des séries télé, du gaming et plus encore, écoute les Marins d'eau douce dans une ambiance décontractée et sans prétention. Un rendez-vous des plus divertissants un lundi sur deux, dès 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Plonge tes oreilles dans la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Chiz 94.3.
Ta référence musicale dans la vieille capitale.
Quelle chaleur!
Samedi, dimanche, 13h, on vous amène la chaleur tropicale.
Quelle chaleur!
Radio Futura 94.3 FM vous amène à un voyage au tropique. En vous pressant les week-ends tropicaux. Son, salsa, cumbia, reggaeton, romántica, vallenato y rock en español. ¡Que comience la fiesta!
You're just so scared you might choke. Trust me, I know that you won't. Maybe you're scared of the dark. Maybe you're scared of your heart. Maybe you're scared of the part where we all disappear. I told you I won't be leaving. Told you I won't be stealing. Spent all my time believing. Meditation keeps me here. Hold on to nothing but hope. Let go both ends of the road. Follow, just follow the road. Follow me home. Whoa. But peace, I tell you we planted the seed. That's what became you and me. The story before me I see. Everyone here is the way. I tell you I change every day. The reason I hold on and learn. Empty space turned me to gray. Separate black to white. Balance my heart into light. Fading the darkness tonight. Turn all my lies into sight. The sunshine. We fell in the sky. I painted your eyes. We separate time. Whoa, whoa, whoa. Just follow me home. Just follow me home.
J'adore les fromages d'ici. Bien écoute la musique d'ici. Écoute local
avec Chiz 94.3.
Faut pas travailler trop trop fort.
I'm breaking away from sanity.